Previously.
Il binge-watchait déjà avant que ce soit cool. Alain Carazé revient pour vous sur des séries cultes.
Au menu aujourd'hui, Modern Family.
Retrouvez-moi tous les mercredis dans Previously, le podcast de Télé-Loisirs, pour plonger dans une série phare que non seulement je vous raconte, mais dont je vous livre aussi des coulisses. Ils ont passé plus de 11 ans ensemble, 11 saisons et 250 épisodes que vous pouvez voir en partie en France sur les plateformes Amazon Prime et sur Netflix. Ce sont les Pritchett, les Dumfries et les Tucker. Trois noms, mais en fait, comme on le découvre à la fin du tout premier épisode, une seule grande famille étendue. Ils ont évolué ensemble, ils ont grandi ensemble. Rico Rodriguez avait 10 ans quand il a commencé à tenir le rôle de Manny, il en a plus de 20 maintenant. Tout comme Sarah Hyland, qui interprète le rôle de Hayley. C'est la comédie télé favorite de Steven Spielberg, de Sacha Baron Cohen, et encore plus impressionnant, de Mitt Romney et de Barack Obama. C'est une comédie sur des familles. Bon, rien de très nouveau, hein, ça existe depuis la nuit du tube cathodique. De I Love Lucy au Brady Bunch, du Cosby Show à Roseanne. Mais sans Modern Family, tout un lot de nouvelles comédies familiales n'aurait sans doute jamais vu le jour. Speechless, Blackish, les Goldberg, Bienvenue chez les Wang, elle a contribué à donner un souffle nouveau à un genre bien essoré. Pourquoi ? Parce qu'en 2009, quand la série est lancée, elle propose d'autres types de familles, multigénérationnelles et multiculturelles. La famille, mais face aux évolutions des normes sociales et culturelles. Il y a donc Jay Pritchett, la figure paternelle. Lui, il s'est remarié avec Gloria. Bien plus jeune que lui, c'est une immigrante colombienne, une vraie bomba latino. Leur enfant, Joe, va naître durant la saison 4. Et son enfant à elle, c'est Manny, dont le père est interprété par le bien connu Benjamin Bratt de New York District. Puis, il y a Claire Pritchett, la fille de Jay. Son mari, c'est Phil. C'est le papa cool, complètement immature. Et leur enfant, Hayley, Alex et Luke. Ils forment les Dumfries. Et enfin, il y a les Tucker. Mitchell Pritchett, le fils de Jay, et son partenaire Cameron. Et il y a leur fille adoptée, qu'ils accueillent tous au tout premier épisode et qu'ils présentent de façon un peu théâtrale aux autres membres de la famille. Elle s'appelle Lily. Leur maison, en tout cas les décors intérieurs de leur maison respective, ont été érigés dans le studio 5 de la 20th Century Fox. Ils y sont donc restés de 2009 à 2020. C'est dans ce même studio que, des années durant, on a tourné les séries Lost in Space, La Loi de Los Angeles et même les X-Files, quand leur tournage a été délocalisé de Vancouver à Los Angeles. On y a aussi tourné des grands classiques, comme Le Voyage Fantastique. Mais vous vous souvenez le film là où les savants se miniaturisent et sont injectés dans le corps humain? On y a tourné aussi L'Étrangleur de Boston, Tora et Frankenstein Junior de Mel Brooks par exemple. Et les créateurs de cette famille moderne sont deux grands noms de la comédie américaine. Christopher Lloyd, tout d'abord. Ah ouais, mais non, c'est pas le Christopher du cinéma, hein, de Retour vers le futur. C'est celui, lui, qui a écrit des épisodes de Golden Girls, puis a été le showrunner de Frasier, la série dérivée de Cheers, ce qui lui a permis de remporter 5 Emmy Awards à la suite. Bam, allez, voilà, là, ça pose un peu le personnage, hein. Hey baby, I hear the blues are calling, toss salads and scram. L'autre créateur, c'est Steve Levitan, qui était aussi producteur exécutif de Frasier, scénariste du grandiose Larry Sanders Show, avec le regretté Gary Shandling, créateur de l'improbable Greg the Bunny. Ah ouais, c'était une sitcom avec une poupée vedette d'une émission pour enfants qui interagissait avec des humains. Et il a surtout créé Just Shoot Me, voilà, une comédie qui a duré 6 années et qui se déroulait dans les coulisses d'un magazine de mode. Donc, ensemble, ils ont donc imaginé une comédie innovante et qui avait pour titre « My American Family ». Steven Levitan a été invité prestigieux du MIPCOM en 2015. On a donc pu longuement le rencontrer. Il nous a parlé en tête-à-tête de la façon inhabituelle dont la série est produite. Car en effet, chacun des deux co-créateurs est en charge de son propre épisode. Vous avez une façon assez inhabituelle de travailler sur une série, vous et votre co-créateur, Christopher Lloyd. Chacun est en charge de son propre épisode. Hein. Pourquoi avoir choisi un tel processus ? Qu'est-ce que ça apporte à la série ?
Eh bien, ça a été très clair dès le commencement. On a eu une approche très différente. On a écrit le pilote ensemble, mais nous apprécions chacun des choses différentes. Et nous avons profité justement d'être deux. On aurait pu passer notre temps à argumenter sur le bon sujet de l'épisode, et ça aurait été une grosse perte de temps. On a donc instantanément trouvé cette idée. Et si cette semaine, tu avais la responsabilité d'un épisode, et la semaine suivante, je faisais le mien. Et au fur et à mesure que l'on entrait dans la production, on s'est rendu compte que l'un de nous pouvait être sur le tournage, pendant que l'autre était au travail sur la réécriture du prochain épisode. Donc, ça faisait sens, et c'était très efficace. Ça fonctionne bien. Les scénaristes participent à chaque épisode. Ils travaillent pour nous deux, mais oui, une semaine, je suis aux commandes, et l'autre semaine, c'est lui. Et ça fonctionne.
Et vous vous êtes vraiment bien synchrone, hein ? Parce que ça pourrait donner lieu à deux séries très différentes. Là, c'est la même vision.
Je pense que les scénaristes contribuent à nous garder en synchronisme. Les auteurs, les personnages et les acteurs aussi nous aident à rester dans les clous. Mais notre approche à chacun est très différente et c'est marrant que le spectateur semble sentir beaucoup moins la différence que nous. Et vous auriez bien du mal à savoir qui a fait lequel. Même pas lequel, mais la pile des épisodes de l'un ou la pile de l'autre. Vous seriez bien en peine de faire cela en raison des personnages et des scénaristes. Et on partage, lui et moi, la même sensibilité sur de nombreuses choses. Mais on a des différences, surtout dans notre approche de la narration. Mais ça fonctionne.
Le côté documentaire de la série était décidé dès le début. Le descriptif de la série était un regard dans le style documentaire sur trois familles américaines, une traditionnelle et deux non traditionnelles. En effet, dans les premières versions du script, il y avait aussi un documentariste néerlandais, Gert Floortje, qui a été correspondant étranger chez les Pritchett quand il était étudiant, 20 ans plus tôt, et qui maintenant est revenu pour faire un documentaire sur eux. Le rôle a été éliminé, on ne connaîtra jamais l'identité de l'équipe qui filme les différentes familles et enregistre leurs commentaires, créant ainsi le style faux documentaire de la comédie. C'est un stratagème qui permet non seulement de recueillir les pensées, mais aussi d'expliquer la façon de filmer caméra à l'épaule de la série.
L'idée de tourner Modern Family dans ce style-là est venue de plusieurs facteurs. Par le passé, j'ai fait un faux documentaire, un truc à tout petit budget, et j'ai vraiment apprécié la forme. Et vous pouvez utiliser les mouvements de la caméra pour faire des gags, et ça, j'aime bien. Mais je dois rendre aussi un grand hommage à The Office pour nous avoir ouvert la voie. Ça a contribué à faire accepter ce style-là par le public américain. Et il y a aussi des films comme This is Spinal Tap, qui est un de mes films préférés de tous les temps. On peut en tirer tant de choses drôles, cette caméra inquisitrice qui vous fixe et qui vous entraîne dans le monde entier, et avec un simple petit regard caméra, on comprend tout de suite ce qui se passe. C'est un grand moment quand quelqu'un s'adresse à la caméra et que ça se lance, mais que vous avez droit à ce regard. Notre public ressent cela, il se dit « Oh, il me regarde moi ».
Dans le rôle de Jay Pritchett, une légende vivante, Al Bundy en personne, Ed O'Neill. Il a en effet été le père de famille de la fameuse sitcom caustique et révolutionnaire « Marié deux enfants », une comédie tournée en multicaméra devant un public avec Katie Segal entre autres. Il a ensuite tenu des rôles très différents, comme des policiers ou des détectives dans « Big Apple » par exemple, la série ratée de David Milch, dans le remake de « Dragnet » et « Les Dragnet » par Dick Wolf, avec à ses côtés une Eva Longoria pré-Desperate Housewives, et dans « John from Cincinnati », un trip hallucinatoire de David Milch, encore sur un surfeur qui serait Jésus-Christ. Bon. Lui, par l'intermédiaire de son agent, avait clairement fait passer le message qu'il n'accepterait plus aucun projet de série comique après avoir été Al Bundy pendant 11 années durant. Il refusait par principe d'être la vedette d'une nouvelle sitcom. Ça se comprend. Steve Levitan et Christopher Lloyd ont donc cherché ailleurs. Ils visaient Craig T. Nelson pour le rôle principal. Et puis, le scénario du premier épisode de My American Family était si formidable que Ed O'Neill a dit « Ok ». Surprise absolue, motivation totale. Et une fois le pilote en boîte, avant même que la série ne soit validée par la chaîne ABC, il a décroché son téléphone et il a appelé tous ses collègues, les uns après les autres, pour leur dire qu'il trouvait la série absolument extraordinaire et que si c'était pas pris, et si cette série n'allait pas durer 10 ans, il ne comprenait plus rien à ce métier. Bref, si vous voulez savoir si votre série comique va marcher ou pas, ben c'est sans vous engager, Ed O'Neill, il ne se trompe jamais. Le network ABC avait la même confiance absolue en la série. En 2009, lors de la présentation de sa grille de rentrée auprès des annonceurs, plutôt que de montrer des extraits ou des bandes-annonces de ses nouveautés, elle prend un pari absolument inouï. Elle va diffuser ce pilote dans son intégralité pour convaincre tous les gens présents. Et pourtant, au début, ce n'était pas si facile de les convaincre. Steven Levitan s'est souvenu pour nous du stratagème très personnel qu'il avait dû utiliser pour que la série obtienne son feu vert. J'ai lu que pour convaincre les gens d'ABC, vous leur avez montré une vidéo très personnelle de vous qui tirez malencontreusement sur votre fils avec un pistolet en plastique. Et ça a d'ailleurs été repris dans le pilote ensuite.
That's right. This is very true.
C'est juste, c'est tout à fait ça. On fait le pitch de la série au network et j'avais cette démo sur mon ordinateur. Une présentation PowerPoint sur les différents personnages. Et après la présentation, le patron de ABC, Stephen McPherson, m'a dit « Quel type d'histoire vous voulez raconter ?» Et on a commencé à lui parler des choses qui arrivent dans notre propre vie. Et je lui ai dit, par exemple, il y a eu cette fois où mon fils avait un petit pistolet en plastique et il a tiré sur son cousin. Et d'un seul coup, j'ai réalisé « Hey, attendez une seconde, j'ai des images de ça sur mon ordinateur parce que je l'ai filmé. » Et je les ai trouvées, extraites, et on a regardé. En fait, mon fils pouvait avoir ce jouet pistolet, mais il ne pouvait pas tirer sur quoi que ce soit de vivant. Pas d'animaux, pas de gens, uniquement des cibles. Et s'il devait s'aviser de tirer sur quelqu'un, je lui ai dit « Je te tirerai dessus ». Je pensais que c'était une attitude responsable pour un père. Je n'étais pas certain que d'autres auraient fait comme ça. Et juste après, j'entends son cousin crier parce qu'il lui a tiré dans le bras. Et en fait, ça fait un mal de chien. Alors j'ai pris mon fils, on lui a mis quelque chose comme 6 sous-vêtements, des grosses lunettes, un chapeau, et je lui ai tiré dessus. Je me suis dit que ça allait être efficace.
Donc votre fils doit avoir un pourcentage sur les bénéfices de la série, alors?
Ouais, complètement. Et dès que les gens de la chaîne ont vu ça, à la minute où ils l'ont vu, ils ont dit « Ok, on veut cette série ». Donc ça a bien marché.
Julie Bowen était enceinte de jumeaux au tout début de la série. On dissimulait son ventre en lui faisant tenir des paniers à linge, en lui donnant des gros pulls noirs et d'autres trucs pour cacher sa condition. Elle a été choisie parmi 212 actrices. Et pendant qu'on est dans les chiffres, 232 autres acteurs ont été vus pour le rôle de Phil. Et il a fallu que Ty Burrell tourne la fameuse séquence que le producteur avait montrée au network pour les convaincre, pour que ABC soit absolument convaincu à nouveau que Burrell était le meilleur choix possible. 110 acteurs ont été rencontrés pour que le choix se porte sur Jesse Tyler Ferguson pour le rôle de Mitchell. Et 228 Cameron ont été auditionnés avant que le choix ne se porte sur Eric Stone Street. Nous avons eu la chance de rencontrer Jesse Tyler Ferguson, c'était en 2011, au Festival de télévision de Monte Carlo. Il aime toujours à rappeler qu'il a été choisi avant son partenaire. Oui, j'ai été choisi avant Eric Stone Street. J'ai dû faire des auditions avec quelque chose comme 10 à 12 comédiens qui pouvaient tenir le rôle de Cameron. Des acteurs tous très différents, grands, petits, noirs, blancs, hétéros, homo. Et Eric est arrivé. Et est ensuite revenu, a été auditionné plusieurs fois, et ils ont décidé qu'il ne convenait pas au personnage. Et puis, ils ont fait une audition ensemble, et ça a très bien fonctionné. On s'est vraiment bien apprécié. et ça a marché vraiment bien. Et quand Modern Family démarre, elle réunit en moyenne 9 300 000 spectateurs sur la chaîne ABC. Ce qui est un carton absolu. Mais mieux encore, pour sa saison 2, la série fait un bond de 34% dans les audiences. Elle devient la meilleure série du network ABC auprès des 18-49 ans. Plus de 15 millions de spectateurs sont dorénavant au rendez-vous des Pritchett et des Dumfries. C'est carrément plus que pour Grey's Anatomy. Jesse Tyler Ferguson avait déjà fait partie de la distribution de plusieurs sitcoms, comme The Class en 2006 ou Do Not Disturb en 2008. Plus que tous les autres, il mesure le côté exceptionnel du succès immédiat de Modern Family. J'ai toujours pensé que la série était très très bonne. J'ai trouvé le scénario très fort, mais je pense que... En fait, j'ai fait d'autres séries qui n'ont pas eu de succès. Et il faut énormément d'éléments pour obtenir un succès. Le scénario doit être bon, mais aussi la distribution doit être réussie, la réalisation doit être bonne, et le studio de production doit soutenir la série, et puis le public doit être là. Moi, je m'attendais à ce qu'un de ces aspects ne se concrétise pas. Et non. Le lancement était une réussite. Les gens regardaient, ils aiment la série, et ils sont même revenus la semaine suivante, et ils ont continué de regarder. Et d'un seul coup, on est devenu un succès. C'était un peu surprenant, je dois le dire. Mais rétrospectivement, j'ai toujours pensé que le scénario était formidable et que le résultat final était très fort. Donc en fait, je ne suis pas surpris que la série soit un succès. Je suis surtout surpris que tous les éléments nécessaires à cela aient fonctionné. Dès sa première saison, Modern Family remporte l'Emmy Award de la meilleure série comique. Et cela se reproduira 5 années consécutives. 5 années durant, avec les acteurs comme Eric Stone Street, Ty Burrell et Judy Bowen, qui reçoivent aussi des distinctions. Fait qui démontre bien l'ambiance qui règne dans la série, tous les acteurs ont postulé dans la même catégorie, second rôle. Même Ed O'Neill, qui aurait très bien pu revendiquer la catégorie meilleur acteur comique, reste dans la catégorie second rôle. En tout, la série aura remporté 22 Emmy Awards. Modern Family a déjà duré 6 années. Elle a reçu des Emmy en tant que meilleure comédie à chaque fois. Vous attendiez à ça ?
Qui peut s'attendre à ça ? Pas moi, en tout cas. C'est vraiment remarquable. Je ne sais pas pourquoi on a eu une telle chance.
Peut-être une bonne écriture ?
On a de formidables scénaristes. On a une distribution géniale. Et apparemment, cela a touché une corde sensible chez les gens. Mais c'est surtout un parcours incroyable et on a vraiment beaucoup de chance. C'est un parcours incroyable et on se sent vraiment très fortunés.
En 2013, TV Guide nous révèle que les acteurs de la série avaient un salaire de 175 000 dollars par épisode, sauf Ed O'Neill, qui en est à 200 000 dollars, plus une participation sur les profits futurs de la série. En clair, ça signifie qu'il y a un pourcentage pour lui quand l'intégralité de la série est vendue à M6 ou à Amazon Prime. Pensez-vous que le succès de la série repose en partie sur le fait que les personnages ne véhiculent aucun cynisme ?
Je pense que certains personnages n'en ont effectivement pas, comme Phil qui n'est pas cynique le moins du monde. Mais d'autres, comme Jay, en ont beaucoup. Et Mitchell possède pas mal de cynisme. Et Claire est pas mal non plus sur ce sujet-là. Donc, il semble qu'avec Jay, Mitchell, Claire, le père, les deux enfants, cette famille véhicule pas mal de cynisme. Mais que chacun s'est marié et devient plutôt optimiste.
Je vais reformuler ma question. La série n'est pas cynique.
Je crois que la série ne l'est pas, en effet. Il y a des gens cyniques, mais la série ne l'est pas globalement. C'est une série qui tente d'être heureuse, drôle, qui tente de ne pas sombrer dans le noir, mais veut aussi être réelle et refléter le monde où l'on vit. Donc on tente de trouver un équilibre. C'est une série que les gens doivent regarder pour ensuite se sentir un petit peu plus heureux. Et c'est une bonne chose.
Ah oui, clairement. Un de vos épisodes préférés, c'est le dernier de la saison 4, Adieu Gracie. Il est écrit et réalisé par vous et il est centré sur la mort de la mère de Phil. Il représente pour vous le parfait équilibre entre l'humour et le drame.
C'était un épisode intéressant car pour nous, il commençait par un défi. Comment traiter des sujets très très sérieux, la mort de la mère d'un personnage, un personnage qu'on apprécie et qui, de plus, est plutôt léger et tranquille. Comment pouvons-nous faire de cela un épisode drôle et pas un épisode spécial de Modern Family ? On a démarré là-dessus et c'était un défi. Relevons ce défi et tentons de trouver comment on fait un épisode avec un sujet aussi sérieux et le rendre touchant, ce qui n'est pas très difficile avec un tel sujet, mais aussi drôle. C'est comme ça que nous avons trouvé l'idée de l'épisode. C'était un défi, mais par chance, on a trouvé le bon équilibre.
En effet, Phil va perdre sa mère dans le dernier épisode de la saison 4. Et dans la même saison, Gloria va donner naissance à Joe. En 2013, au début de la saison 5, Cameron et Mitch réagissent très vite au fait que le mariage gay est maintenant légal. Après que, le 26 juin de cette même année, la Cour suprême ait tranché en faveur de la suppression de la proposition 8, qui interdisait le mariage entre personnes de même sexe en Californie. Et les scénaristes envisagent une cérémonie officielle pour bientôt. Elle arrivera en fin de saison lors d'un double épisode. Ironiquement, la cérémonie de mariage se déroule à Rancho Palos Verdes, au Trump National Golf Club. L'impact d'un mariage gay dans une sitcom en prime time est énorme. Pour beaucoup d'Américains, ce sera le premier mariage gay auquel ils assistent, explique Jesse Tyler Ferguson à l'époque de la diffusion. De plus, la réaction de Jay, le père de Mitchell, qui redoute la cérémonie et le spectacle qu'elle va donner à ses voisins et à ses amis, est symptomatique de la réaction de nombreux parents jusqu'au dernier moment de l'épisode, qui est très émouvant.
On s'était dit que Mitch et Cam se marieront aussitôt que ça deviendra légal pour eux de le faire. Donc, quand la loi qui rend légal le mariage gay est passée en Californie, c'était le moment. Et c'est le passage de cette loi qui a entraîné nos personnages, qui vivaient déjà ensemble depuis longtemps, qui avaient déjà un enfant ensemble, à se marier. Donc on a juste laissé la société évoluer et nous dire quand le moment sera venu.
Je crois que, vous savez, on essaye de ne pas être les symboles pour des gens, pour les couples gays, pour les gays qui ont des enfants. Mais on admet ça. Ça a une importance sociale incontestablement. Et c'est surtout l'occasion de faire changer les idées de pas mal de gens. Je ne sais pas comment ça marche à travers le monde, mais rien qu'aux États-Unis, beaucoup de gens viennent me trouver et me disent « Je ne pensais pas que des gays devaient se marier ou pouvaient avoir un enfant. Et votre série m'a fait changer d'avis. » Et c'est vraiment étonnant. Parce que tout devait nous mener à cet événement. Et je pense que Mitchell et Cameron sont des figures de la culture populaire qui resteront un point de référence. C'est donc très excitant. Je crois que la communauté gay a pas mal soutenu Cameron et Mitchell. Ils ont fait quelques critiques à un moment, portant principalement sur le fait qu'on devrait montrer plus d'affection. Ils pensent que quelquefois il y a des stéréotypes, mais je prends cela comme une critique qui peut toucher toute chose qui devient populaire. Les gens critiquent et je crois que, quand c'est le cas, c'est juste le signe que la série marche et que les gens aiment ça. On est critique qu'envers les choses qu'on apprécie. S'il s'agit de quelque chose qu'on déteste complètement, on ne va pas se donner la peine de formuler une critique. Mais comme là, ils aiment les personnages, ils donnent leur opinion sur le sujet. Donc j'accepte cela très ouvertement et j'aime entendre les avis des gens. Mais les gens sont majoritairement persuadés que Cam et Mitchell sont une bonne chose pour la communauté gay.
Et vous êtes d'accord avec ces critiques ?
Je pense qu'il y a toujours la place pour qu'on puisse évoluer. Je pense que c'est finalement une opportunité. Ils ne s'embrassent pas. Et les spectateurs ont réagi. Oh, ils devraient s'embrasser. Les autres couples s'embrassent, eux. Et ça nous a permis de faire cet épisode où Mitchell évoque qu'il n'est pas à l'aise avec une manifestation d'affection en public. Une chose qui est, je pense, très juste. Et on a profité pour étudier les raisons de cela. Pourquoi il est gêné en public ? Et donc les critiques sont vraiment constructives. D'autres sont un peu idiotes, mais moi, j'adore lire cela, car ça témoigne de l'amour des gens pour la série. En saison 8, des acteurs comme Nathan Fillion de Castle, Martin Short et Kelsey Grammer de Frasier font des apparitions dans les épisodes. Dans le dernier épisode de la saison 10, Ellie, dorénavant avec Dylan, donne naissance à deux bébés. George, un garçon, et Poppy, une fille. Jusqu'à quel point la série est basée sur de vraies anecdotes vécues par vous ou par vos scénaristes ?
On essaie autant que possible de s'inspirer de nos vies. On regarde constamment autour de nous pour accepter ce qui nous arrive et en garder des notes. Parce que les meilleures histoires proviennent de la vie réelle. Je dirais donc que un tiers, voire une moitié de nos histoires viennent de nous. Quelquefois, des embryons d'histoire de ce qui nous arrive en vrai.
C'est pas vraiment la vraie vie de vos scénaristes, hein ?
Quelquefois.
Oh mon Dieu !
Je veux dire, quelque part, il leur arrive des choses qui vont très loin. Mais on essaye de repousser le stade de ce qui arrive dans la vraie vie. Mais vous verrez comme c'est étonnant. Regardez ce qui vous arrive dans la vie, mais sous l'angle du potentiel comique que cela recèle. On a tous des vies très marrantes.
Arrive la saison finale, avec la présence de David Beckham et de Courteney Cox pour un épisode. Juste avant le grand final, les personnages de Modern Family se payent un voyage à Paris. C'est un peu la tradition dans la série qui se délocalise pour des épisodes exceptionnels. Ils ont été à Las Vegas et en Australie, par exemple. Le dernier épisode est diffusé le 8 avril 2020. Il montre une longue séparation pour chacun, pour des raisons diverses et souvent contradictoires. Vont-ils ou ne vont-ils pas partir ? Mitch et Cam, par contre, voient se réaliser un souhait qu'ils avaient émis à la toute fin de la saison 2. Ce final, diffusé lors d'une soirée spéciale le 8 avril dernier, donc en pleine crise du Covid-19, n'a pas bénéficié de beaucoup de presse, mais a cependant réuni 7 400 000 spectateurs, sa plus forte audience depuis janvier 2017. Cependant, la fin de la série a été marquée par un drame. Quelques jours après le tournage de cet épisode final, Béatrice est décédée. Jesse Tyler Ferguson l'a révélé avec une photo sur Twitter. Béatrice tenait le rôle de Stella. Eh ouais, vous avez vu juste, c'est le bulldog de Jay Pritchett. On va conclure sur une note un peu moins triste. Il y a des idées de spin-off dans l'air de Modern Family, même si les deux créateurs confirment que ce ne sont pour l'instant que des discussions et que rien de très excitant, artistiquement parlant, ou de très tangible n'existe à ce jour. Mais la porte reste ouverte et la lumière sous le porche de certaines des maisons des Pritchett est restée allumée. Je vais laisser la conclusion à Mitchell Pritchett. Enfin, je veux dire, à Jesse Tyler Ferguson. Bon, les deux ne font qu'un. Hein. Je pense qu'il n'y avait pas eu de grande comédie familiale américaine depuis pas mal de temps. Il y avait « Tout le monde aime Raymond » qui était une grande série, mais ça fait déjà longtemps. Mais une série comme le Cosby Show de ce genre, non. C'était un regard unique sur la famille, mais que devient une sitcom quand on la regarde de l'intérieur. Modern Family reprend la même chose. Je pense aussi que, même s'il y a eu pas mal de comédies à la télé, il n'y en a pas beaucoup qui avaient du cœur. Je veux dire, 30 Rock, par exemple, c'est génial. The Office, c'est génial. Mais elles ont des moments d'émotion. Mais la majorité du temps, ce sont des gags un peu cyniques.
We certainly have those moments too where we're very witty and smart and snarky to one another, but I think that
Je pense que Modern Family est une comédie où chacun peut se retrouver. On vient tous d'une famille, on a tous une famille. Il y a donc dans chaque épisode des moments où chacun peut se sentir concerné. Et je crois que c'est la raison principale de l'intérêt qu'on lui porte. Et aussi, c'est super bien écrit. Donc les gens réagissent à une comédie bien écrite. On a la chance d'avoir les meilleurs auteurs de la télé. La semaine prochaine, dans le prochain Previously, vous deviendrez le Cape Crusader, le Dark Knight, l'aile rouge, l'homme chauve-souris. Vous serez Batman. Ce podcast est disponible en avant-première sur l'application Audio Now, puis sur les plateformes Deezer, Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict, Google Podcast, Castbox et Overcast.